Il est 7h50 à Paris, nous recevons l'historienne Michèle Perrault. Bonjour Michèle Perrault.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à Paris Diderot. Vous avez beaucoup travaillé sur le mouvement ouvrier, vous avez écrit sur l'histoire des femmes. Elle ressemble à quoi la femme de 1968? C'est qui?
La femme de 1968, c'est une femme à la fois contrainte et qui aspire à la liberté. Contrainte parce que, au fond, la société de cette époque est très conservatrice. Famille, etc. Mais il y a des quantités de signes d'émancipation. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dès cette époque-là. Et puis, en 49, vous me direz que c'est 20 ans avant, Simone de Beauvoir a quand même publié Le Deuxième Sexe. Et la génération qui est là, en 68, la génération féministe connaît, connaît. Et par conséquent, il y a à la fois beaucoup d'aspirations et en même temps des contraintes. Les femmes ne sont pas au premier rang quand même. Et notamment en 68, elles ne sont pas au premier rang.
On voit peu de femmes sur ce mouvement de 1968, il en reste peu. Vous étiez en 1968 femme à l'université déjà?
J'étais assistante à la Sorbonne. On ne pouvait pas mieux faire et j'étais au fond au cœur de l'événement. Je connaissais très bien les étudiants, notamment ceux qui ont fait 68, parce qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'histoire sociale et que je m'occupais d'histoire sociale. Donc, j'ai vécu 68 intensément et participé à l'occupation de la Sorbonne. Et tout de suite après la fin de cette occupation, qui est au mois de juin, mi-juin, avec des amis, nous étions dans une revue qui s'appelait Le Mouvement Social, et on avait décidé de faire un numéro spécial du Mouvement Social sur mai 68, qui s'est appelé La Sorbonne par elle-même. Alors on avait recueilli les tracts, les affiches, tout ce qu'on pouvait avoir, et on avait organisé ça et publié ça, et voilà.
Et voilà. Est-ce que vous avez un souvenir marquant pendant cette occupation de la Sorbonne, un souvenir personnel?
Les Katangais qui étaient des enfants perdus de je ne sais quelle expédition africaine et qui étaient très enthousiastes parce que ils avaient l'impression qu'ils servaient à quelque chose, qu'ils pouvaient nous défendre contre la police. Voilà, c'est un très beau souvenir.
Revenons à ces femmes de 1968. Vous le disiez, beaucoup d'aspirations, elles n'étaient pas très présentes. Finalement, les grandes avancées avaient eu lieu avant, le droit de vote. Vous parliez de Simone de Beauvoir, la femme iconique de la libération sexuelle, Brigitte Bardot, c'est un petit peu avant.
56. Et Dieu créé à la femme, c'est 56.
Et derrière, il va y avoir finalement, après 68, un véritable mouvement avec la naissance du MLF. Et qu'est-ce qu'elles voulaient, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles voulaient obtenir qu'elles n'avaient pas eu en 68?
Notre corps, nous-mêmes. Ça a été la grande devise du MLF et des femmes engagées. Et c'était là qu'il y avait un blocage considérable. Il y avait une aspiration à une plus libre sexualité qui était partagée par les hommes et par les femmes, mais il n'y avait pas de moyen de contraception. Et comme vous le savez bien, l'avortement était interdit, poursuivi. Et ça, c'était le blocage fondamental, absolument. En 67, il y avait eu la loi Neuwirth, ce qui montre d'ailleurs qu'il y avait une prise de conscience de la nécessité de la contraception. Mais en 68, quand on veut avoir la pilule, c'est très difficile.
Ça reste très compliqué. C'est ce que raconte une des femmes qui témoigne dans ce livre « Fille de mai » que vous avez préfacé. On voit que les enfants, qui restent une affaire hautement féminine à l'époque, c'est aussi un très grand enjeu, un très grand enjeu sur la famille.
Bien sûr, on n'a pas toujours le désir d'enfant, ça arrive au moment où on ne le souhaite pas. Et un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà encore une des phrases clés du mouvement de libération des femmes en 68. Et la conquête de tout cela qui va se faire entre 70 et un petit peu plus tard, le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi, la loi, la lutte pour la loi Veil, la loi Veil, Simone Veil joue un rôle considérable évidemment, et un petit peu plus tard, alors, le procès d'Aix-Marseille, à la suite du viol de deux femmes par des garçons, et ensuite la loi sur le viol en 80. Ça, c'est les grandes, grandes étapes. En 10 ans, si vous voulez, il y a des lois fondamentales qui répondent à cette aspiration, notre corps, nous-mêmes.
Aujourd'hui, pourtant, la question, elle paraît se poser toujours. On a vu ce grand scandale sexuel de l'affaire Weinstein dans le milieu du cinéma à Hollywood, qui a eu des répercussions jusqu'en France, avec des prises de position qui ont été quand même extrêmes. Ce combat pour le corps des femmes, pour qu'elles en aient la pleine disposition, c'est un combat qui n'est toujours pas terminé.
Il faut beaucoup de temps pour changer de très vieilles structures, comme Françoise Héritier l'a montré dans Masculin-Féminin, la pensée de la différence. C'est une domination masculine qui est quand même au cœur de la société occidentale, et pas seulement occidentale, universelle. Par conséquent, c'est un espèce de bloc hercynien, vous savez, très dur. Et pour changer les choses, il faut beaucoup de temps. Et on a changé un certain nombre de choses. L'accès à l'avortement, par exemple, la pilule, qui est fondamentale, la contraception est quelque chose de fondamental, parce que ça change la sexualité. Mais les femmes continuent à être un petit peu des objets sexuels, hein. La publicité, etc. On pense qu'on peut vraiment les harceler, justement.
Et hein. Justement, légiférer contre le harcèlement sexuel, contre les violences sexuelles, comme on en a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est quelque chose d'utile. Ça permet de réelles avancées, que le droit sanctionne.
Alors, je pense qu'il faut être prudent. Par exemple, pour le harcèlement de rue, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, certainement pas. Mais toutes ces mesures législatives ont au moins un effet, c'est qu'on en parle. Et c'est qu'on légitime la parole des femmes, c'est ça qui est important. C'est qu'une femme qui se plaint, elle avait souvent le sentiment d'être une emmerdeuse, d'être celle qui a provoqué, etc. Là, on lui dit non, votre parole est légitime, hein, et qu'elle soit bien accueillie dans les commissariats, et puis que on dise qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec une femme. Hein. Quand je dis non, c'est non. Hein. Et le harcèlement, c'est généralement ce qui n'obéit pas à ça, qui continue. Et par conséquent, qu'on mette le haut là, me paraît une très bonne chose, même si, encore une fois, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et la folie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.